Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est pas évident pour les gens de l'époque, comme ça l'est pour nous, de comprendre ce qui est en train de se passer. Nous arrivons là dans une période, dans les textes que nous avons lus, dans une période où Dieu se tait pendant près de 400 ans. Et si pour nous c'est clair, et les événements qui se produisent sont faciles à comprendre et à identifier, nous, maintenant, nous avons l'intégralité, n'est-ce pas, de ce qui s'est fait, ce que Christ a fait. Pour les gens de l'époque, ce n'était pas si évident que ça d'être là dans la compréhension. Et probablement pour les premiers qui ont vu ces paroles, reçu ces paroles, ça devait être quelque chose d'assez même étonnant. C'est ce que je vous propose de regarder ensemble dans le détail ce matin, lors de notre message, de ce partage. Je vous propose de vous attarder sur le récit. On a lu un certain nombre de textes, justement, de chapitres, du chapitre 1 et 2 de Luc. Donc je vous propose de vous attarder sur ce récit, dans quelques détails, et nous pouvons après comprendre vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Je prends la main, si tu veux bien. Merci. Jean-Claude, j'en profite pour aussi, c'est vrai, saluer tous ceux qui sont là, qui nous rendent visite aujourd'hui et qui sont là pour la première fois. Sentez-vous à l'aise, même si c'est vrai, nous avons une façon de parler qui n'est pas toujours très, très facile à comprendre, mais sentez-vous à l'aise et on est là pour vous expliquer aussi s'il y a besoin. C'est là, important pour nous de se laisser guider à Jésus. Dans ces deux premiers chapitres de Luc, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans ces moments-là, dans ces événements. Et le premier qui est présenté comme celui qui va être bousculé par cette révélation, par cette arrivée, c'est cet homme qui s'appelle Zacharie. Zacharie, c'est un homme qui est en plein service dans le temple. C'est un prêtre et il doit apporter, comme c'est prévu sur la loi de Moïse, il doit apporter des parfums dans ce temple, sur l'autel des parfums. C'est son tour, c'est à lui de le faire. Il amène seul ses parfums et tout d'un coup, Zacharie voit l'ange Gabriel qui est là, debout, à droite de l'autel. C'est, comme je le disais, un serviteur de Dieu, un prêtre. Il est qualifié de scrupuleux et d'irréprochable dans la Bible. Pour autant, lui et son épouse, sa femme Élisabeth, sont âgés et ils sont sans enfants. Ils ont prié pendant de nombreuses années, ils sont fidèles au Seigneur, mais malgré tout, ils n'ont pas eu de réponse jusque-là. Ça va changer, parce que c'est ce que Gabriel est venu lui annoncer. Il est venu annoncer l'intervention de l'Éternel, la réponse à leur prière et la naissance de celui qui sera Jean le Baptiste, celui qui va précéder Jésus-Christ, ouvrir ce chemin. Peut-être que vous connaissez cette histoire, mais Zacharie, dans un premier temps, il doute. Zacharie, il a un certain âge, n'est-ce pas ? Et pour lui, pour son épouse, ça semble impossible qu'il puisse véritablement y avoir de l'espoir encore. C'est ce qui le rendra muet, nous dit le texte, jusqu'au jour de l'accomplissement de la parole. Élisabeth, qui est son épouse, enceinte de 6 mois, s'est cachée, et elle va se réjouir elle-même de son côté, car ce qui faisait une honte devant les hommes pour elle, eh bien, va finalement être ce moment de joie, parce que Dieu met en place un plan. À la fin, Zacharie, qui lui va à la naissance de Jean, son fils, va finalement retrouver la voix, va dire : toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur, pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra sur, pour nous d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Luc 1, 76 à 79. Revirement, n'est-ce pas, de situation, ce qui caractérisait le doute, Zacharie finalement va devenir une certitude. L'intervention de Dieu va apparaître dans le cœur et aux yeux de Zacharie comme quelque chose de merveilleux. Je te remercie. Bon. On a beaucoup chanté, hein. Je ne sais pas si vous avez aussi des difficultés avec les notes qui sont hautes. En tout cas, nous reconnaissons là le changement d'optique que Dieu peut faire. Et finalement, sa femme aussi va se réjouir pour cette venue de cet enfant. Parmi les autres témoins, eh bien, il y a cette cinquième proposition hein, qui nous est faite par Luc, par ce médecin qui retrace les événements. Et cette personne qu'il nous propose, c'est la dernière. Et je l'ai mise là parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec Zacharie. Elle aussi, elle est d'un certain âge. Elle ressemble, comme je le disais, à Zacharie. Elle sert Dieu dans le temple jour et nuit. Jour et nuit, sans aucun titre particulier. Elle est là. La Bible nous dit qu'elle prie et jeûne pour son peuple, pour la délivrance de son peuple. Attendez, hop, je vais trop vite. Elle a été mariée. Anne a été mariée assez jeune, assez tôt. 7 ans après leur mariage, son époux est mort. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle avait des raisons, n'est-ce pas, de se rebeller, peut-être de s'enfermer dans sa tristesse. Elle choisit de se consacrer à l'Éternel. Elle choisit de s'impliquer et de prier pour que Dieu sauve, pour que Dieu délivre. Et le texte nous dit que lorsque Jésus est né, qu'il est présenté dans le temple, comme par hasard, je dirais entre guillemets, elle survint, poussée par Dieu, n'est-ce pas ? Et elle va comprendre qui est l'enfant. Elle dira que c'est le Rédempteur, celui qui délivre. Elle va louer Dieu et elle va parler de Jésus à ceux qui, comme elle, nous dit le texte, attendaient un sauveur. C'est étonnant, cette femme dont on ne connaît pas grand-chose, n'est-ce pas, mais qui quand même était dans cette attente. Troisième personne que je vous propose de voir dans le détail, encore une fois, c'est la seconde dans la chronologie de Luc qui est impliquée par Dieu dans son plan. Vous la connaissez, c'est Marie, n'est-ce pas ? On entend parler souvent d'elle. Contrairement à Zacharie et Anne, elle, on ne la connaît pas très bien. Il y a un ange aussi, Gabriel, qui vient la voir, mais on ne connaît pas de détails sur elle. Après, plus tard, il y en a qui vont en inventer. Mais la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur cette jeune fille. Nous savons seulement qu'elle est fiancée à Joseph, un homme descendant de David, de la maison de David. Et Gabriel vient s'adresser à elle. Il lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » La réaction de Marie, ce n'est pas le doute, pas comme Zacharie, mais c'est plutôt l'incompréhension. Elle est surprise, elle est dans l'incompréhension et sa réaction est logique. Hein. Mais comment c'est possible ? Je ne connais pas d'homme. On ne peut pas mettre un enfant au monde si on n'a pas d'homme, n'est-ce pas ? Elle va quand même avoir cette réponse très claire dans Luc chapitre 1, verset 37, de cet ange Gabriel qui lui dit « Aucune parole qui est prononcée par Dieu ne sera impuissante. Aucune parole que Dieu prononce ne sera rendue impuissante. » Ce que l'on traduit, on va dire plus simplement par « rien n'est impossible à Dieu ». Mais permettez-moi de garder cette traduction littérale. aucune parole que Dieu prononce ne sera rendue impuissante. Quelques mois plus tard, c'est face à sa parente, Élisabeth, dont nous avons parlé, femme de Zacharie, alors que là, Marie arrive vers elle, Jésus, qui est dans le ventre de Marie, est identifié par cet enfant qui n'est même pas encore né, Jean, dans le ventre de sa mère. Et là, Marie va réaliser que le plan de Dieu est lancé. Elle va réaliser ce qui se passe et qu'elle est impliquée dans ce plan et elle dira quelque chose d'étonnant. Toutes les générations me diront bienheureuse. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette parole de Marie ? Toutes les générations me diront bienheureuse. Le mot est juste. Il ne faut pas aller plus loin et lui donner d'autres titres, ce n'est pas nécessaire. Elle dira juste ce qu'il faut. Toutes les générations me diront bienheureuse. Bienheureuse d'avoir porté ce sauveur. Le quatrième personnage que je vous présente, qui là fait écho à Marie, lui aussi, c'est Siméon. Siméon, c'est un vieillard, un homme d'un certain âge. Encore une fois, on ne connaît pas grand-chose de lui dans les textes, comme Marie. En parallèle, on sait seulement une chose. Il avait reçu de Dieu, par l'Esprit de Dieu, une promesse. La promesse de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Cette promesse, va s'accomplir. Simon, lui, il sait que le salut est proche, puisqu'il est dans un âge avancé. Et il va dire que ce salut est pour tous les peuples. Il comprend ce que Dieu est en train de faire. Et il va dire, dans le texte qui retrace sa parole, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » C'est ce qu'il dit quand lui aussi, par hasard, entre guillemets, il est poussé par l'Esprit de Dieu et il rencontre l'enfant Jésus dans le temple 8 jours après sa naissance. Ses témoins sont tous avertis que le plan de Dieu est lancé, que ce plan est en marche, qu'il est en route, certains par des anges, les deux, et les autres parce que, dans leur cœur, ils attendent cette promesse qui vient de Dieu. Et nous avons, au milieu de ces personnages, nous avons des bergers. Anonymes. On ne connaît pas leur nom. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le service, dans le temple. Ce ne sont même pas des gens qui attendent d'une façon particulière une intervention de Dieu, qui sont là en train de se dire « Tiens, quand est-ce que ça va arriver ?» Ils sont en train de garder leur troupeau. On sait qu'ils sont plusieurs. Ils gardent leur troupeau, c'est la nuit. Et en fait, ils sont anonymes parce que ce qui est important, ce n'est pas qui ils sont, mais c'est le message qui leur est adressé et aussi la mission qui leur est confiée. Quand nous lisons, il est dit, cette nuit, tout à l'heure ça a été lu, dans la ville de David est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. C'est le message qui leur est donné. C'est le centre de cette annonce à tous ces gens-là. Et il vous est né un sauveur, le Messie ou le Christ, il est le Seigneur. La mission, elle est donnée dans le verset qui suit. Allez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et allez-y pour l'identifier. Donc le message, c'est il vous est né un sauveur et la mission, c'est aller identifier ce sauveur-là. Allez-y. On ne peut pas les accuser de calcul, n'est-ce pas, d'intérêt ou de choix personnel. Ces bergers, versets 15 et 16 du chapitre 2 de Luc, décident d'y aller, troublés par ce qu'ils viennent d'entendre, cette chorale d'anges qui chante à la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'ils trouvent là, comme ça leur avait été indiqué, Jésus, dans cette étable, n'est-ce pas, dans cette crèche, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Leur mission, c'est de trouver et d'identifier ce sauveur, et c'est fait. Et nous pouvons dire, il y a un sauveur qui nous est montré, qui nous est révélé par toutes ces personnes qui pointent vers cette crèche. Et c'est pour ça que c'est pour nous, n'est-ce pas, un merveilleux moment, ce moment de Noël. On se rappelle de ça chaque année. On le fête, ce n'est pas n'importe quoi. Noël, c'est la venue de Jésus, mais c'est la venue de celui qui est identifié comme notre sauveur. Tous ces témoins le présentent comme cela. Ils sont là, comme je l'ai dit, pour nous mener à Jésus. Il vous est né un sauveur. Jésus est né pour sauver, pour nous sauver. Jésus a été envoyé par Dieu, donné par Dieu, pour porter nos fautes, pour porter nos fautes, nos péchés, nos défaillances, nos maladies, nos imperfections. Pour pouvoir s'en sortir de cela, Dieu a pourvu d'un sauveur pour toi, pour moi. Il est le Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le Messie, je l'ai dit, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est désigné par Dieu lui-même. Et troisièmement, c'est qui ? Il est le Seigneur. C'est le cœur du message, il est le Seigneur. Ce sauveur, c'est qui ? C'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois. Ce Sauveur, c'est Dieu qui vient pour nous sauver. Le plan qui est en route, ce n'est pas juste un plan pour nous sauver, c'est lui-même le plan. C'est Dieu lui-même le plan qui vient, le Tout-Puissant qui est le moyen de notre salut. À la croix. Quand je regarde ces événements et quand je les lis dans les détails, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps là-dessus, mais ce n'est pas très long, ça ne sera pas encore trop long. Quand je regarde attentivement ces détails, voilà, on peut relever plein de choses. Il y a dans ce texte, dans ce récit, dans cette narration, beaucoup de simplicité. Des gens simples, comme vous et moi, n'est-ce pas ? Qui sont au travail, qui sont en train de s'occuper de leurs affaires. Beaucoup d'humilité aussi, on n'est pas dans la cour, comme on l'a dit, d'un roi, on n'est pas là en train de se retrouver parmi les puissants. Voilà. On relève le service des uns, la fidélité des autres, la surprise. Tout le monde est surpris par ce qui est en train de se passer. On entend parler aussi de désillusion. J'ai perdu mon mari, j'ai pas d'enfant. La résignation, c'est pas grave, je continue ma vie. Il y a ceux qui s'attendent à Dieu, Zacharie et Élisabeth, et Marie n'en font pas partie. Ce sont les autres qui s'attendent à Dieu. Et il y a ceux qui sont interrompus dans leur vie par Dieu, avec cette arrivée, cette visite des anges, comme je l'ai dit, et aussi les bergers. Mais toutes ces personnes différentes, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est quoi ? C'est qu'ils acceptent tous, à un moment donné, le plan de Dieu. Ils sont tous réceptifs, avec plus ou moins de doutes ou de questions, mais ils sont tous réceptifs au plan que Dieu a mis en route. Tous différents, mais ils acceptent. Et ils reçoivent Jésus comme le Sauveur. Et toi, face à Noël, face à ces fêtes, est-ce que tu es réceptif à ce plan de Dieu ? Ce plan que Dieu a mis en œuvre pour toi, pour moi ? Est-ce que tu es réceptif au fait que Dieu se donne lui-même pour te sauver ? Encore aujourd'hui, nous pouvons dire, comme la Bible le dit clairement, que Jésus est vivant et il veut que tu le reçoives, que tu l'acceptes dans ta vie. Encore aujourd'hui, Dieu te dit, viens, je viens à toi et viens toi à moi, je suis venu sur terre pour te sauver. J'ai envoyé Yeshua, Dieu qui sauve, Jésus, pour te sauver. Comme tous ces gens que nous avons encore une fois regardés ce matin, laisse-toi bousculer, laisse Dieu venir dans ton cœur. Dieu te propose de le recevoir, de l'accepter. Dis oui, laisse-le entrer dans ta vie. Tu comprendras son amour pour toi. Tu comprendras toute sa compassion. La Bible dit sa miséricorde. Quand nous sommes dans la misère, il envoie une corde pour nous en sortir. Tu comprendras sa délivrance, ses bienfaits. Aussi ce matin, je t'invite, chrétien ou non-chrétien, à, encore une fois, lui demander pardon, ouvrir ton cœur et reconnaître, comme toutes ces personnes, les merveilles du plan de Dieu, du Dieu qui nous sauve. Alors tu pourras te réjouir comme moi, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, à l'approche de ces fêtes, et tu regarderas au bon endroit. Parce que bon, c'est vrai qu'on était éblouis par toutes ces décorations, on est éblouis par les cadeaux qui nous sont faits, où voilà, on s'attend à de belles choses, mais nous voulons regarder au bon endroit. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Je vous invite à prier pour rendre gloire à Dieu et le remercier. Éternel notre Dieu, nous voulons encore venir à toi ce matin et te rendre gloire, te rendre, Seigneur, hommage, te dire merci. Nous sommes rien, nous le savons. Nous ne sommes pas grand-chose. Et pourtant, Seigneur, tu es venu dans notre monde, Seigneur. Tu es venu dans notre misère et, Seigneur, tu t'es donné. Il n'y avait pas d'autre choix, Seigneur. Personne ne pouvait le faire puisque tous ont péché et tous sont privés, Seigneur, de ta gloire. Et tu, Seigneur, as prévu ce plan depuis toute éternité, Seigneur. Ce plan pour toi-même venir t'engager et, Seigneur, t'offrir à la croix pour mourir à notre place, afin que nous ayons la vie éternelle avec toi. Seigneur, nous te remercions pour tant de simplicité, mais aussi pour tant de grandeur, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour et nous te disons encore à l'approche de cette fête, cette commémoration, Seigneur, un grand merci et, Seigneur, gloire te soit rendue, parce que tu es un grand Dieu, parce que ton amour est infini et parce que, Seigneur, tu es vivant encore aujourd'hui dans nos vies, Seigneur. Nous tournons nos vies vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.